Je suis né à Fontainebleau et j'y ai grandi jusqu'à mes 14 ans. Là où nous sommes partis, ma famille et moi, dans notre exode vers Bruxelles. Et je me souviens qu'avec ma mère et mes sœurs, et mon père aussi, on allait souvent au parc du château de Fontainebleau, le magnifique château de Fontainebleau, et il y avait là un labyrinthe végétal au château de Fontainebleau. Alors c'est pas le labyrinthe du château de Fontainebleau, celui-là est beaucoup plus beau. Il était un petit peu vieillot à Fontainebleau, mais il était quand même magnifique ce labyrinthe, et j'y allais du haut de mes 1m30 et les haies faisaient 1m80, 2m, et j'y allais plein de courage. C'était chouette, mais en même temps j'avais toujours une petite angoisse. Est-ce que je vais trouver la sortie? Et quand, après un petit quart d'heure, en courant dans les haies, à travers les haies, je trouvais enfin la sortie. Enfin la sortie, c'est le titre de la prédication. Ce matin, nous faisons une série dans le livre de l'Exode, et l'Exode qui veut dire « sortie ». Sortie d'Égypte, en l'occurrence, le deuxième livre de la Bible, dans le Premier Testament. Et on nous parle effectivement donc de sortie d'Égypte, mais elle tarde à venir, cette sortie. Il y a d'abord Moïse, qui n'est pas prêt. Alors je vous... Voilà la liste des cinq prédications qui ont déjà eu lieu, les six même prédications qui ont déjà été faites là-dessus. Donc il y a d'abord Moïse qui n'est pas prêt et qui doit passer 40 ans dans le désert pour être vraiment prêt. Il a 80 et quelques années. Et puis après, c'est Pharaon qui ne veut pas. Le Dieu dit à Pharaon, à travers Moïse, « Let my people go, let my... » Non, il le dit en hébreu. Il le dit, « Laisse partir mon peuple. » Mais le Pharaon refuse, le Pharaon s'entête. On a parlé d'endurcissement de Pharaon. Et il est intéressant de voir les refus de Pharaon. Parfois c'est un refus net et parfois il concède quelque chose et puis il se ravise. Non, en fait, non, vous n'allez pas partir. Il y a une mauvaise foi évidente chez Pharaon. Il y a un endurcissement, il y a un orgueil incroyable. Il y a, et on en avait parlé, une fuite en avant dans l'esprit de Pharaon. Mais au chapitre 12... les choses s'accélèrent, la sortie enfin, on y est, mais Dieu, et là l'expression vaut la peine d'être dite, mais Dieu, que c'était compliqué. Au verset 41 du chapitre 12, au terme de ces 430 ans, le jour de la Pâque, toutes les troupes de l'Éternel quittèrent l'Égypte. Enfin on y est. Et donc, cette sortie va s'étaler sur plusieurs chapitres, 11, 12, 13, 14 du livre de l'Exode. Et il y a, avec plusieurs temps forts, il y a évidemment la traversée de la mer des joncs, que vous attendez tous avec impatience, mais ce sera pour une prochaine fois. Mais il y a un autre événement, la dixième plaie. Et puis, il y a la Pâque, et un petit tableau peut-être qui est... Chapitre 11, annonce du dixième fléau. Chapitre 12a, institution de la Pâque. 12b, le dixième fléau. 12c, la sortie d'Égypte. 13, chapitre 13, on revient vers des instructions pour la Pâque. 14, passage de la mer des joncs. Il y a une imbrication de la Pâque, de la dixième plaie et de la sortie qui commence déjà d'ailleurs à la fin du chapitre 13. La dixième plaie, on l'a lu tout à l'heure, la mort des premiers-nés en Égypte, une dixième plaie tragique, dramatique. Il y a des innocents qui meurent dans l'histoire, même si la notion d'innocence mériterait d'être approfondie. Mais quand même, ils n'y sont pour rien ou pas grand-chose, ces premiers-nés. Et c'est donc assez incompréhensible pour nous, hommes et femmes du XXIe siècle, comme la guerre dans l'Ancien Testament, si vous lisez le Ruh et la conquête de Canaan, c'est des sujets un petit peu difficiles. Alors j'aimerais rapidement relever quelques détails dans le récit, dans le texte biblique, qui nous permettront, sinon de comprendre complètement cette question, du moins à la remplacer, à la replacer dans son contexte. Il faut savoir que d'abord, la dixième plaie, le dixième fléau, fait suite à une énième obstination de Pharaon. Et un commentateur, Antoine Nouis, que vous connaissez peut-être, certains d'entre vous, nous dit « Le caractère extrême du fléau est la réponse à l'obstination extrême du Pharaon. » Tous les avertissements, tous les fléaux, qui sont aussi des mesures de grâce, des appels, sont épuisés. Et on est entré dans le jugement. Dans le jugement de Dieu. Dieu juge. Dieu est le juste juge. Et il juge les obstinés. Et il juge la mauvaise foi. Et j'insiste sur cette expression. La mauvaise foi évidente, l'orgueil démesuré, il juge la fuite en avant dans le mal. Et Paul, quelques centaines d'années après, 1500 ans à peu près, va dire aux Galates, « On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » Dans la sagesse populaire, on dit « qui sème le vent récolte la tempête ». Il y a un effet boomerang, il y a un retour. Tout n'est pas indifférent. Jésus lui-même va dire à un moment « on vous mesurera avec la mesure que vous avez utilisée pour mesurer les autres ». On n'est pas dans un monde indifférent. Ce que vous faites peut être retourné contre vous. Il y a aussi dans la bouche de Jésus beaucoup de paroles d'amour, de grâce, de pardon, de rédemption. Mais il parle aussi de séparer le blé de l'ivraie, ou l'ivraie du blé. Il parle aussi de séparer des boucs des brebis. Il va dire à un moment, « Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Et il parle à des gens de mauvaise foi, à des hypocrites, à des comédiens. Il y a ces paroles difficiles de Jésus. Lui, et ce qui n'enlève à rien à toutes ces paroles d'amour, de pardon, de grâce. Mais il y a ces paroles compliquées de Jésus et il faut, et on va pas développer, mais il faut en tenir compte. Le Christ revient comme un juge et le Pharaon est déjà jugé. Et puis, deuxièmement, cette disparition des premiers-nés fait écho au meurtre de masse du Pharaon qu'on a vu en Exode 1, où il décide de tuer tous les premiers-nés hébreux. La mort des premiers-nés pour cette dixième plaie fait écho à ce meurtre de masse du chapitre 2. Et c'est intéressant, c'est de voir que lors de la première rencontre de Moïse et le Pharaon, Moïse parle du peuple d'Israël comme étant le premier-né de Dieu. Tu diras au Pharaon, voici ce que dit l'Éternel, Israël est mon fils aîné. Et il y a tout un accent théologique sur ce fils aîné. Et Pharaon veut tuer le premier-né de Dieu. Autre point, cette dixième plaie n'est pas perçue comme une joie par Moïse. Ce qui est intéressant de voir au chapitre 11, verset 8, c'est Moïse qui se met en colère. Il se met pas en colère parce que Pharaon n'est pas d'accord avec lui, il semble vraiment que ça soit une colère de tristesse par rapport à cette extrémité où on en est arrivé. Et il est le premier meurtrier de voir qu'on en arrive à cette extrémité à cause de l'obstination d'un homme. Il est déçu, il est dépité, il ne se réjouit pas de cette dixième plaie. Dans la tradition juive, pendant la fête de la Pâque, qui célèbre l'Exode, les Juifs retirent une goutte de vin à l'évocation de chacune des 10 plaies d'Égypte, pour réduire la joie de la libération dont la coupe est le symbole. À chaque évocation de chacune des plaies, on retire une goutte de vin pour réduire la joie. Et dans le livre des Proverbes, le livre biblique des Proverbes, il est écrit « Si ton ennemi tombe, ne te réjouis pas. Quand il trébuche, que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse. » Et peut-être que les Israéliens devraient s'en souvenir aujourd'hui. Et puis, dernier point, peut-être le plus compliqué, enfin pas plus difficile pour nous, mais on pourrait aussi parler de cette solidarité collective. Alors, le solidarité est un bon mot, mais il y a une solidarité aussi, quelque part, dans le mal, dans le sens où le Pharaon entraîne tout son peuple avec lui. Le peuple fait corps avec son Pharaon, et le peuple est, sans le vouloir, peut-être solidaire de son Pharaon pour le meilleur, et dans le cas échéant, pour le pire. D'ailleurs, la cour de Pharaon s'en aperçoit elle-même au chapitre 10, verset 7. Ils disent « Laisse donc partir ces gens, ne vois-tu pas, Pharaon, nous qui sommes égyptiens comme toi, que l'Égypte court à sa ruine avec toi et nous avec toi ?» Il y a cette solidarité collective, le peuple paye pour les errances de son gouvernant. Alors, on a du mal à comprendre en tant que citoyen du 21e siècle, mais pas tant que ça, en fait. Cette solidarité collective existe encore aujourd'hui. On a des exemples de dictateurs qui ont entraîné leur peuple dans des catastrophes. Hitler, Staline, Mussolini, pour rester en Europe et au 20e siècle. Et ces peuples, les Italiens, les Allemands, les Russes, ont payé pour leurs gouvernants, avec leurs gouvernants, et pourtant, et c'est extraordinaire, on trouve encore des nostalgiques de Staline, des nostalgiques d'Hitler, des nostalgiques de Mussolini, et on pourrait trouver aussi des nostalgiques de Pharaon. Voici quelques données. Comme je l'ai dit, ça n'explique pas tout, ça ne justifie pas tout, ça reste quelque chose d'un peu terrible, mais ça le replace dans son contexte, et ça le remet en perspective, je parle du dixième fléau. Mais dans cette nuit tragique, il se passe autre chose qui est plutôt du domaine de la célébration. Et au milieu coule la rivière, et au milieu la célébration de Pâques. Alors vous allez dire, Eric, il s'est trompé un petit peu dans son timing, on n'est pas vraiment dans la période de Pâques, mais vous avez compris, on fait une série sur l'Exode et ça tombe maintenant, j'aurais pu calculer pour que ça tombe en avril, mais je ne l'ai pas fait. Voilà, au milieu de tout cela, la célébration de Pâques, avant de partir, chaque famille célèbre la Pâques et en fait, on a deux fêtes dans une, la fête des pains sans levain et la fête de la Pâque, ou plutôt l'inverse, la fête de la Pâque et la fête des pains sans levain. La fête de la Pâque qui dure 4 jours, du 10 au 14 du mois d'Abib, qui correspond à avril-mai, plus ou moins, et la fête des pains sans levain qui dure 7 jours, du 14 au 21, avec un jour central, c'est le 14. Le 14 du mois d'Abib. Et la fête de la Pâque, c'est intéressant de le noter, commémore la délivrance de la mort. La fête des pains sans levain commémore la libération de l'esclavage. Deux fêtes en une. Et puis, on soulève quelques points. C'est une fête de partage. Alors, c'est intéressant de voir qu'ils sont là en famille, et dans le texte il dit « Entends-toi avec des voisins pour faire la fête ensemble ». Si l'agneau est trop gros, invitez vos voisins, etc. En tout cas, c'est une fête de partage, familiale. Les prêtres, le clergé viendront après. Mais c'est avant tout une fête familiale avec le voisin. Je lisais une citation intéressante. « Mieux vaut un voisin proche qu'un frère éloigné. » Fête de partage. Et puis, aussi, un moment de partage, une fête qui est faite dans l'urgence. Il faut être debout. On rôtit la viande parce que c'est le mode de cuisson le plus rapide. On a serré la ceinture, on a relevé les pans de sa robe pour le mettre dans sa ceinture pour être prêt à partir. On a mis des sandales, on a son bâton dans les mains, on prend du pain sans levain, on n'a pas le temps de faire lever la pâte. Non, on est sur le qui-vive. Vive! Sur le qui-vive, parce que, disait un commentateur encore, la libération est une urgence. Il n'y a pas à tergiverser. On ne peut pas attendre, on ne peut pas justifier l'oppression, l'oppresseur. Se contenter d'un statu quo, il faut se tenir prêt. Dans les années 60 du siècle précédent, il y avait une théologie qui est sortie en Amérique du Sud, en pleine dictature. C'était la théologie de la libération. Alors, ils ont, comme souvent dans ces mouvements, ils ont été trop loin et c'est devenu extrêmement politique et plus tellement biblique. Mais la théologie de la libération, elle est ancrée dans la parole. Et il y a urgence à être libéré, à vivre cette libération. Et c'est pour ça, il se tenait dans l'urgence, prêt à partir, prêt à bondir, prêt à sortir, prêt à faire leur exode. Et puis il y a le temps de l'agneau. Vous l'avez entendu, on arrive au cœur de cette fête de Pâques avec cet agneau dont on prend le sang et avec lequel il est demandé de badigeonner les linteaux des portes. Toi, le peuple de Dieu. Et le fléau destructeur passera par-dessus. Verset 13. Et le verbe passer par-dessus au verset 13, c'est PSR. Voilà. Trois racines verbales en hébreu. Les mêmes que la Pessah, la Pâque. Donc au verset 11 et au verset 13, la même racine verbale. Passer par-dessus. En anglais, la Pâque se dit « pass over », passer par-dessus. Et passer par-dessus dans le sens d'épargner, de couvrir, de protéger, parce qu'un agneau est mort à ta place. Et c'est toute la question de la substitution qui est là, et qui était déjà apparue avec Abraham. Vous vous souvenez, le sacrifice raté, on va dire, d'Isaac, non, pas raté. Substituer un bouc, qu'on appelle le bouc émissaire, qui prend sur lui. Et ce thème de l'agneau substitutif revient, et il est central, et le sang de l'agneau est déterminant pour les Hébreux. Et on voit là qu'on n'est plus dans une sorte de libération socio-politique, mais vraiment dans la rédemption, dans le salut, dans le rachat. Et le Nouveau Testament va reprendre ce thème et va montrer son aboutissement, son accomplissement en Jésus-Christ, Jean-Baptiste, qui fait le lien qui est dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile de Jean, chapitre 1, qui fait le lien entre l'Ancien Testament, c'est la figure qui fait le lien entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Jean-Baptiste va dire en voyant Jésus, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Et Pierre, l'apôtre Pierre, va dire aussi une parole assez fantastique et je voudrais qu'on le lise ensemble, parce qu'on est dans le cœur du salut. Vous avez été libérés de cette manière futile de vivre, et vous savez à quel prix. Ce n'est pas par des biens périssables comme l'argent et l'or, non, il a fallu que Christ, tel un agneau sans défaut, verse son sang précieux en sacrifice pour vous. » Peut-être que vous avez déjà entendu tout cela, mais je crois qu'il est intéressant de le remettre en rapport avec la Pâque. On ne peut pas passer à côté de ce thème qui est central dans la Bible. J'ai lu quelque part cette petite phrase qui dit « Personne n'est assez riche pour racheter son passé. » Et à l'époque, je parlais de Rockefeller. Rockefeller, c'était l'homme le plus riche du monde à l'époque. Je parle du XXe siècle. Personne n'est assez riche pour racheter son passé. Même Rockefeller, aujourd'hui, même Elon Musk, n'est pas assez riche pour racheter son passé. Jésus est notre agneau de Pâques, il nous rachète. Ce thème est central dans la Bible et il est central aussi dans cette peinture qui est à la cathédrale de Gand, qui s'appelle l'agneau mystique de Jan van Eyck, et peint au XVe siècle, où on voit l'agneau au milieu et adoré par les vieillards, comme dans l'Apocalypse, l'agneau central. Et en français, c'est l'agneau mystique, mais en néerlandais, parce que c'était un flamand, van Eyck, qui parlait néerlandais. On fait la distinction entre les deux choses. Mais het lam rots, l'agneau de Dieu. Et puis, dans cette dernier point, pour cette célébration de la Pâque, on y voit un acte quand même de foi. Parce que, c'est vrai, on peut se demander quelle est la part des Israélites dans cette histoire. Pour l'instant, ils font pas grand-chose. Hein. On les a pas beaucoup vus, mais en 12.3, dites-le à toute la communauté. Ah, toute la communauté est incluse dans la sortie d'Égypte, dans la fête. Ils vont devenir les agents de leur propre libération. Ils vont mettre leur foi en action. Pourquoi ? Parce que c'est quand même assez compliqué, enfin assez décalé, de mettre le sang d'un agneau sur les linteaux de ses portes, sans qu'il y ait de précédent dans l'histoire. Un petit peu comme Noé fait acte de foi en construisant un bateau en pleine campagne. Là, ils font un petit peu la même chose, un acte de foi. D'ailleurs, acte Hébreux 11, qui nous parle des héros de la foi, nous parle de ces Israélites du temps de Moïse. C'est par la foi que les Hébreux ont célébré la Pâque et ont fait répandre du sang sur les portes. C'est par la foi. Un acte de foi. Et je lisais quelque chose d'assez intéressant aussi. Il faut bien comprendre que les Israélites, les Hébreux, le peuple de Dieu, n'étaient pas meilleurs que les autres. C'est dit dans l'Ancien Testament, et la suite de l'Exode nous le dira clairement, qu'ils ne sont pas meilleurs que les autres, on va le voir après, dès qu'ils sont sortis, ils vont commencer à se plaindre, etc. Mais si les Israélites ont dû appliquer le sang sur les montants de la porte, c'est précisément parce qu'ils étaient tout aussi coupables que les Égyptiens. Le sang est appliqué sur les montants des portes, non pas parce que Dieu n'est pas en mesure de savoir qui est à l'intérieur de la maison, mais bien plutôt parce qu'il le sait très bien. À l'intérieur de la maison, il y a des pécheurs comme vous et moi. Le sang des linteaux comme un signe de la foi en un Dieu qui libère. Bon. Quelques idées pour la route. D'abord, apprends à faire la fête. On note dans les instructions pour la Pâque une célébration perpétuelle. Et plus loin dans le Deutéronome qui explique la loi pour une deuxième fois, tu te souviendras de tous les jours de ta vie, du jour où tu es sorti d'Égypte. Et puis on se souvient du rabbin Gamaliel, c'était la première prédication en juin, qui disait « Tout fidèle, tout croyant a le devoir de se considérer comme ayant été personnellement sorti d'Égypte. » Et pas un simple souvenir nostalgique du genre ouais, « c'était mieux avant, hein, Moïse, quand même, c'était quelqu'un, quel type formidable. » Non, mais une mémoire qui implique le présent, mon présent. Il s'agit de cultiver la reconnaissance pour ce que Dieu a fait et le faire dans l'humilité et se souvenir présentement, comme disaient les amis canadiens, pour contrer notre tendance à oublier et à rester le nez collé sur l'actualité. Célébrer le salut en Jésus-Christ, vivre la joie du salut, le vivre pleinement dans le présent, se réjouir d'avoir été libéré de la culpabilité liée au mal qui me colle à la peau, de la condamnation qui pesait sur moi en tant que pécheur, se réjouir de la libération de la mort et de la peur de la mort qui l'accompagne et de l'emprise qu'elle a sur moi et par la peur qu'elle exerce sur moi. Et chanter le gospel « Let my people go », non pas parce que c'est un truc culturel, mais en investissant les paroles. Oui, il m'a délivré de tous les pharaons, comme nous avons chanté, les pharaons au pluriel, de tout ce qui a emprise sur moi, toutes mes addictions, toutes les idoles, comme disait Timothée Keller, l'argent, le pouvoir, le sexe et tous les autres, mes mécanismes de défense, ma jalousie, mon désir d'en savoir plus que les autres ou d'en faire plus que les autres, ma colère intérieure que je trimballe, ma rébellion. Il nous a délivrés, c'est la joie, vivre la fête, faire la fête. Et puis deuxièmement, tiens-toi prêt. Au verset 11 de Exode 12, il est dit aux Hébreux de se ceindre les reins, c'est-à-dire de se serrer, pas serrer la ceinture, non, serrer la ceinture pour pouvoir relever les pans de la robe, pour pouvoir courir, se mettre à sortir, à marcher. Tenez-vous prêt, il y a urgence. Tiens-toi prêt. Et il y a certainement l'urgence climatique, mais pas que. Il y a l'urgence du salut de toute la création, de la nature, la création de Dieu et ses créatures. Il y a une urgence, l'urgence du salut. Et la Bible parle, le Nouveau Testament parle de ces jours qui sont les derniers. En basket, on parle, ou dans les sports, on parle de money time. On est dans le money time. Il y a urgence, les amis. Et l'apôtre Pierre aime beaucoup le thème de l'Exode, selon Samuel Benetro, le prof du Nouveau Testament. Et il a déjà parlé du sang de l'agneau, c'était lui que l'on a lu tout à l'heure, mais il va reprendre l'expression de se ceindre les reins au premier chapitre de sa lettre à tous ceux qui sont dans la diaspora, saignez les reins de votre esprit. C'est vachement... Soyez prêts, alors il y a d'autres traductions, soyez prêts, tenez votre esprit en éveil, la Nouvelle Bible Second traduit, mobilisez vos facultés mentales, tenir prêt, soyez disponible, se tenir prêt à l'action. Et pourquoi? Et le texte continue en disant, soyez sobre, soyez dans la modération. Pour traduire ça, ne vous laissez pas distraire. Ne pas être diverti, comme le disait Blaise Pascal. Ces choses qui font diversion. Et le texte de 1 Pierre 1, verset 13, continue en disant, soyez, mettez toute votre espérance dans la grâce. Et j'ai envie de dire, soyez concentrés sur la grâce. Saignez les reins de votre intelligence et soyez concentrés sur la grâce de Dieu, sur l'amour, sur le service dans l'amour, etc. Et puis, dernier point, partage la libération. Partage l'exode. Partage la libération avec d'autres pour nos sociétés, dans nos sociétés, dans nos pays, pour chaque individu que ce monde, que Dieu, et de ce monde que Dieu aime et qu'il veut libérer. Et il y a ce dernier verset que je vous signale et que j'aime beaucoup dans cet exode, c'est au chapitre 12, 38, une foule nombreuse et cosmopolite ou composite ou hétéroclite se joignit à eux, à qui eux ? Les Hébreux, se joignit à eux pour sortir, pour vivre la libération. Et selon la tradition juive, cette foule était presque aussi nombreuse que les Israélites. constitué d'Égyptiens qui voulaient s'attacher à Dieu, des esclaves ou des prisonniers de guerre qui ont profité de ce mouvement vers la liberté, une foule cosmopolite, hétéroclite, composite, se joignit à eux. C'est beau ça. Dans Nombre, le livre des Nombres, qui vient plus loin dans le Pentateuque, il est dit « Il y avait parmi le peuple un ramassis d'individus. » Un ramassis d'individus. Et une traduction, un commentaire parle de racaille. Ça nous dit, il y avait parmi eux la racaille. Ou de la caïra. Mais ce qui est beau, c'est de se dire, l'exode, le salut, la délivrance, la libération, c'est aussi pour la racaille. Que l'on passe au karcher ou pas. Le Christ est mort pour toutes les racailles et toutes les canailles du monde, pour la femme de mauvaise vie condamnée par tous, pour l'homme blessé au bord de la route, pour Zachée, le petit qui fait le caïd, pour Simon-Pierre, l'impulsif, pour ton voisin, pour ton ami, pour ton collègue, pour tous ceux qui t'entourent, une foule cosmopolite. Et si nous les entraînions pour faire le voyage avec nous, les aider à nous sortir avec eux ou à les sortir avec nous de tous les labyrinthes de la vie. Sortez avec nous, on va faire la fête. Amen.